Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Adrien Testu au Chambon-Feugerolles, plus précisément les éco-délégués. Les éco-délégués réunissent des représentants de toutes les classes. Nous mettons en place des projets sur le développement durable au sein de notre lycée. Radio Ondaine nous a accompagnés dans des ateliers pour la préparation d'une série de tables rondes radiophoniques avec des intervenants qui agissent au quotidien en faveur de l'environnement. Aujourd'hui, nous recevons Evelina Riocreux, formatrice sur les enjeux écologiques et militante. Nous allons discuter, entre autres, sur l'empreinte carbone dans le monde du textile.
Bonjour Evelina Riocreux, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour à vous et merci beaucoup pour l'invitation. Mon prénom donc Evelina Riocreux. Des fois, on entend Eve quand on parle de moi. J'ai 32 ans, je suis originaire de Saint-Étienne et là, j'habite la vallée de l'Ondaine, donc pas loin.
Comme le dit votre profil LinkedIn, vous êtes aujourd'hui formatrice sur les enjeux écologiques et de coopération. Quelles sont vos formations et parcours ?
Moi, je fais un parcours classique pour quelqu'un qui s'en sort bien à l'école. Donc, à l'époque, il y avait le bac S. Donc, j'ai fait bac S, prépa, école d'ingénieur. Donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire toutes ces études. Et par contre, sur la partie écologie, on ne voyait pas du tout ça à l'école. J'ai été diplômée en 2015 et ce n'était pas encore abordé, même en école bac plus 5, ce qui est assez fou, je trouve. Mais heureusement, maintenant, c'est un peu plus abordé. Et du coup, c'est beaucoup de l'auto-formation. Donc je n'ai pas fait de licence ou de bac spécialement là-dedans. Mais j'ai beaucoup lu, j'ai regardé des films. Et je pense que le principal, c'était les rencontres. Donc j'étais voir des conférences et puis après confronter mes idées avec plein de personnes qui pensent pas comme moi pour voir que c'est pas si facile, que c'est pas si simple, mais que c'est hyper enrichissant, je trouve.
Vous êtes présentée régulièrement comme militante écologiste. Expliquez-nous cet engagement au quotidien.
Alors, je dirais pas que militante écologiste. Je pense que je suis aussi militante féministe et antiraciste. Mais du coup, si on reste sur le thème de l'écologie... Donc au quotidien, je suis végétarienne depuis ma prise de conscience en 2018. Donc, je suis devenue végétarienne, j'ai arrêté de prendre l'avion, j'ai commencé à questionner les achats, mes déplacements en voiture, et puis presque tout le quotidien. Et puis après, j'ai voulu voir un peu plus à d'autres niveaux qu'est-ce qui était possible. Donc on va dire que je me suis engagée en politique, mais pas spécialement dans un parti, plus j'ai essayé d'inciter les gens à aller voter. Pour lutter contre l'abstention. Donc d'ailleurs, cette année, il y a les européennes pour les personnes qui peuvent voter. Et puis, par exemple, quand il y a eu les législatives, donc c'est après les présidentielles, on élu des députés. On a un ou une députée par circonscription. Et du coup, j'aurais proposé une fresque du climat pour qu'ils aient bien en tête les ordres de grandeur avant d'arriver à l'Assemblée nationale, là où ils votent quand même les lois pour tous les Français et les Françaises.
C'est quoi cette fresque du climat ?
Alors, c'est un atelier qui dure 3 heures et je pense que là, ça peut correspondre aux formations que j'ai faites sur les enjeux écologiques. Donc à la base, j'ai juste participé à l'atelier. On m'a dit, vous pouvez devenir formatrice. Donc j'ai refait une formation de 3 heures. Et après, par expérience, j'en ai animé une cinquantaine. C'est devenu mon métier, en fait, d'animer des fresques du climat. Et donc, un atelier pour mieux comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique. Et c'est une façon ludique de comprendre le rapport du GIEC, qui est un rapport de 4500 pages en anglais, donc qui donne pas trop envie, en tout cas qui est pas très digeste, alors que le jeu est plutôt sympa. Enfin, en tout cas, moi, ça fait 3 ans que j'anime et ça a toujours un super effet.
Comment en êtes-vous arrivée à ce positionnement ?
Alors, il faut du temps. Vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense qu'aussi, on part pas tous du même endroit. Et moi, je pense que je partais vraiment de très loin. Par exemple, je sais que mes copines, elles parlaient de Biocoop quand j'étais au lycée. Moi, je ne comprenais pas ce que c'était. Nous, on faisait nos courses à Auchan, Lidl. On mangeait McDo toutes les semaines. Et c'est vraiment après que j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui essayaient de faire autrement. Et du coup, c'est vraiment depuis 2018, chaque mois, j'apprenais de nouvelles choses. Mais voilà, et même encore, bien sûr, maintenant, j'en apprends beaucoup. Donc, il faut du temps et il faut être curieux, curieuse. Et je dirais... Ce que je disais un peu au début, l'esprit critique, tout remettre en question, rencontrer des personnes qui pensent pas comme nous, et aussi même les livres scolaires partir de l'idée que même les livres qu'on voit à l'école, ils ont un parti pris, un point de vue, et du coup, c'est intéressant d'aller voir d'autres points de vue.
En tant que femme, comment tenir cette posture ?
Eh ben, je dirais qu'en tout cas, dans le milieu enfin, quand je dis écologiste, c'est pas le parti politique spécialement, mais plus les militants écologistes. Et ben, c'était pas du tout compliqué, parce qu'en fait, les questions de genre ou d'égalité homme-femme, c'est vraiment au cœur des débats depuis donc toujours 2018, en tout cas que moi, je fais partie de, enfin, je vais aux réunions, aux conférences. Par exemple, quand on va aux assemblées générales, la personne qui anime l'assemblée fait attention à la répartition des temps de parole entre les hommes et les femmes. Et donc, s'il y a trois hommes qui ont pris la parole, après, ils demandent est-ce qu'il n'y a pas une femme qui veut parler. C'est des petites incitations comme ça, mais en tout cas, c'est déjà vraiment ancré ou pris en compte. Et par contre, je me dis, ce qui facilite aussi, c'est que du coup, je suis femme, mais qui a fait des études supérieures, je suis une personne valide. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus facile, donc je ne veux pas dire que c'est facile pour toutes les femmes.
Quand on utilise le terme écologie aujourd'hui, de quoi parle-t-on ?
Alors, moi, je dirais écologie, c'est domination des humains sur le reste de la nature. Et pour moi, ça, c'est un fait indéniable que quand les humains veulent faire une route, ils ne se posent pas la question de est-ce que les écureuils sont d'accord ou ils font leur route. S'ils veulent manger du poisson, ils raclent le fond de l'océan. Donc, c'est, voilà, pour moi, c'est vraiment cette domination-là. Et pour moi, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de domination entre les humains. Donc, ce n'est pas le truc prioritaire pour moi, en tout cas, mais juste voilà, une des problématiques de cette planète. Et sinon, on a tendance à résumer le terme écologie par climat, parce que c'est comme ça que ça a été médiatisé. Et en fait, c'est une partie des problèmes écologiques, c'est le climat, mais il y en a d'autres. Donc si vous voulez aller creuser ça après, ça s'appelle les limites planétaires. Et par exemple, il y a l'érosion de la biodiversité et d'autres choses. Voilà.
On vous a invité aujourd'hui pour vous parler du textile et de son empreinte carbone. Pouvez-vous nous définir ce terme en version simplifiée ?
Alors, moi j'adore parler du carbone. Donc, donc à chaque fois qu'on se déplace ou qu'on chauffe chez nous par exemple, ou qu'on achète, la production de ce qu'on achète a émis du carbone. Ça peut se calculer à différentes échelles, mais en tout cas l'empreinte carbone au niveau de la France, c'est... combien nos habits ont émis pour leur production et leur traitement. Donc en quelle unité c'est ? On parle de CO2 équivalent, tonnes ou kilo de CO2 équivalent, parce qu'il y a différentes gaz à effet de serre, notamment le méthane, qui a un pouvoir réchauffant beaucoup plus important, 50 fois plus important que le CO2. Et pour qu'on puisse les additionner, on parle de CO2 équivalent. Et donc, un habitant en France, son empreinte carbone moyenne, c'est 10 tonnes de CO2 équivalent. Bon, comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on sait que pour rester pour que la planète reste habitable, il faudrait que notre empreinte carbone soit à 2 tonnes. Et pour la part du textile, en France, elle a été calculée par l'ADEME. On a la chance d'avoir un service public qui fait beaucoup de calculs. Par exemple, en Espagne, juste payé à côté... Les ateliers qu'on utilise, donc Inventons nos vies bas carbone, où on parle beaucoup de l'empreinte carbone aux personnes qui s'y intéressent, a eu du mal à être traduit en espagnol parce qu'il n'y avait pas tous les calculs qui avaient été faits. Alors que l'ADEME a fait ce travail en France, donc ça c'est super. Et l'empreinte carbone du textile, c'est 400 kg de CO2 équivalent, donc une demi-tonne environ.
Quelles sont les sources de pollution dans l'industrie textile ?
Alors je reprends le fameux rapport de l'ADEME justement. Donc épuisement des ressources en eau pour la culture du coton. Donc par exemple, un t-shirt en coton, ça a 2700 litres d'eau utilisée. Mais aussi, pollution de l'eau. L'industrie textile est responsable de 20% de la pollution des eaux industrielles, pollution des sols, émissions de gaz à effet de serre. Donc on l'a vu, mais au niveau mondial, ça correspond à 8% des émissions mondiales, juste la partie textile. Donc c'est plus que les vols aériens et maritimes et les trafics maritimes réunis. Dégradation des écosystèmes et de la biodiversité et consommation d'énergie à toutes les étapes du cycle de vie. Et quand on parle de pollution de l'eau, c'est 240 000 tonnes de particules, de microparticules de plastique qui sont relâchées dans les océans. Bon là, je trace vraiment le tableau noir, mais c'est cool qu'on puisse s'habiller.
Depuis quelques années, il y a ce phénomène de multiplication des collections dans la mode qui porte le nom de fast fashion. Où l'on appelle à la surconsommation de vêtements produits à bas prix. Quels en sont les impacts ?
Alors, donc fast fashion ou mode éphémère, si on garde du français. Donc, j'ai lu que c'était, donc toujours la dame, que c'était passé en 2000 de 2 collections par an à jusqu'à 24 collections par an pour certaines marques. Alors, je garderai quand même le côté positif du bas prix, parce qu'à mon avis, c'est quand même quelque chose de positif, je trouve, parce que ça permet de rendre les habits accessibles au plus grand nombre. Mais par contre, du coup, les impacts, c'est tous les impacts qu'on a vus, mais de multiplier par la vente en plus. Et donc, en Europe, on achète 40% de vêtements au plus qu'il y a 15 ans. Alors que globalement, je pense qu'on se salit moins que ce que... Enfin, même que, encore il y a 15 ans, je pense que le mode de vie n'a pas trop changé, mais par rapport à la génération de nos grands-parents, c'était plus, par exemple, l'agriculture, ils se salissaient beaucoup plus que nous. Donc, il n'y a peut-être pas besoin d'acheter autant.
Comment sensibiliser et alerter sur ce mode de consommation ?
Alors, vague question. sensibiliser. Alors, je pense qu'il y a une grande partie de ce qu'on fait dans la vie, c'est dû au fait qu'on fait comme les autres, en fait. Donc, plus il y aura de personnes qui auront envie d'initier un mouvement différent, et je dis pas que c'est facile, plus ça va prendre. Là où c'est compliqué, je trouve, pour les vêtements, c'est que ça fait partie intégrante de notre identité, de d'où on vient, de comment on va être perçu par les autres. Donc, c'est pour ça que je mets quand même ça en parallèle, que pour moi, c'est pas si simple. Et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à inventer pour que ça soit plus large. De se dire, on achète moins de marques, on achète moins de neufs, etc. Et sinon, je pense qu'il y a une part non négligeable de la publicité qui influe nos cerveaux, comme dans beaucoup de choses. Et donc, moi, il me semble que j'ai toujours grandi où, quand il y avait la pub de McDo, il y avait après « ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé ». Depuis 1er mars 2022, quand il y a une pub sur les SUV, il y a la petite phrase « pour les trajets courts privilégiés, la marche ou le vélo ». Et je pense qu'il y a une phrase à inventer pour le textile. Par exemple, peut-être trouver un truc un peu plus fun, mais garder vos vêtements plus longtemps et acheter de la seconde main.
À notre échelle, au lycée, nous avons monté un vide-dressing gratuit. Comment peut-on défendre, valoriser le réemploi aujourd'hui de manière plus large ?
Alors, défendre, valoriser, je me dis montrer l'exemple, comme ce que je vous disais tout à l'heure. Je me souviens plus d'avoir, si j'ai eu la chance de visiter le vide-dressing, mais j'ai hâte de le voir après. Mais je me dis peut-être reprendre les codes de comment c'est présenté dans les magasins classiques. Bien présenté. Reprendre les codes de la fast fashion, mais l'adapter pour un magasin de vide-dressing gratuit, pourquoi pas. Par exemple, en rajoutant nouvelles collections. C'est des idées qui me viennent. Et sinon, je vous invite aussi à vous rapprocher des associations locales. Zéro Déchet Saint-Étienne, par exemple. Et puis au niveau national, On est Prêt, qui eux suivent de près les lois. Et en fait, arrive à faire quand même des mouvements de masse. Donc, pourquoi pas se rapprocher de ce qui existe déjà en dehors du lycée.
À notre échelle, que peut-on faire pour limiter cette surconsommation de vêtements ?
Alors, pour moi, gros travail sur les récits. La place des vêtements dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toujours lié à ce que je disais avant. Et pourquoi pas créer des effets de mode différents. Et là, vraiment, c'est pas du tout ma spécialité, mais je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles idées dans la jeunesse pour créer des effets de mode qui ne soient pas qui ne valorisent pas la fast fashion, et au contraire. Et donc là, on sait plus qu'est-ce qui serait cool aujourd'hui, de réparer, de ne pas jeter. Donc en fait, rien que ça, ne pas jeter les habits, maintenant il y a quand même beaucoup de circuits où ils peuvent être réutilisés. Mais y a encore beaucoup de personnes qui ne prennent pas ce temps-là ou ce soin ou cette énergie de se renseigner. Donc rendre peut-être les informations plus facilement accessibles. Et puis après, je pense beaucoup au pouvoir de la question, de poser des questions, d'aller, à Zara, Primark, et aller regarder les étiquettes et demander au vendeur ou à la vendeuse pourquoi il n'y a pas toutes les informations dessus ou est-ce que ça a été fabriqué. Petit à petit, ça fera évoluer les marques aussi, je pense.
Dans votre activité de formatrice, est-ce que le réemploi est un sujet que vous abordez ?
Oui, bien sûr, parce que ça fait partie des axes pour diminuer notre consommation. Donc, c'est pas que textile, vu qu'on aborde avec la fresque du climat l'alimentation, le bâtiment, etc., les transports. Et bien sûr, c'est pas moi qui dis quelles sont les solutions, mais ça vient vraiment des participants et participantes, et ça sort quasi à toutes les fois. Et donc aussi, voilà, privilégier la réparation. Et il y a des marques historiques comme Eastpak, les sacs à dos, qui ont toujours eu une longueur d'avance sur ça, où c'est facile de renvoyer le sac pour le faire réparer, une fermeture éclair, plutôt que d'en racheter un neuf, par exemple. Voilà.
Comment faire pour vous contacter ?
Alors, donc, je me suis mise à mon compte en 2020 et j'ai créé une petite auto-entreprise qui s'appelle Le Sens du Tournesol, donc Sens, S-E-N-S. Et du coup, en tapant ça sur Internet, je suis bien référencée normalement. Donc, vous avez accès à mon site Internet. Et voilà, il y a mes coordonnées.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Oui, alors déjà, je voulais vous parler d'une loi qui est passée récemment à l'Assemblée nationale, donc 18 mars 2024. Pour encadrer justement les pratiques de la fast fashion et qui a été accueillie et votée à l'unanimité. Donc, je pense que c'est assez rare pour une loi, donc chouette que ça l'emporte. Et du coup, il y avait notamment trois axes. C'était déjà définir ce que c'est la fast fashion, parce que l'importance des mots est hyper importante dans notre vie de tous les jours, dans les lois. Et donc déjà, pour mieux encadrer la fast fashion, c'est important de mieux la définir. Donc ils ont voté la définition finale. Sensibiliser les consommateurs, création d'un malus écologique, donc un peu comme le malus carbone, où globalement je pense que les entreprises vont préférer payer le malus écologique que faire des efforts, mais il y a déjà ça en plus sur leurs épaules, on va dire, et pour moi c'est quand même un pas de plus sur l'encadrement de cette fast fashion, et interdiction de la publicité sur la fast fashion à partir du 1er janvier 2025. Yes, et notamment, ça prend en compte aussi les influenceurs, influenceuses des réseaux sociaux. Donc, trop chouette, je trouve. Et donc ça, c'est au niveau national. Et au niveau européen, il y a aussi la fast fashion qui a attiré, le phénomène qui a attiré le Parlement européen. Donc pareil, ils sont en train d'encadrer ça pour limiter l'impact sur notre planète, notamment, mais aussi les travailleurs qui sont... pas très bien rémunérés et conditions de travail vraiment pas terribles. Donc ça avance, c'est cool. Il y a des choses qui avancent au niveau des lois, parce que je pense que ça motive aussi au niveau à notre échelle. Parce que souvent quand on se dit on fait des choses à notre niveau et qu'au niveau de la loi ça suit pas, ça décourage. Donc là la loi y est. Il va falloir quand même... surveiller, comme je disais, les entreprises, donc continuer à poser des questions dans les magasins pour dire que on est là, on regarde, on surveille, ça nous touche, on a envie de limiter l'impact. Et après, donc si je reste sur, par exemple, localement, à Firminy, il y a un grand Emmaüs, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai découvert un peu tard, vers 2018, et il y a vraiment tout un hangar qui est dédié aux vêtements. Avec une partie qui est même des vêtements neufs, issus des stockages de magasins, par exemple. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est ouvert presque tous les jours. Et du coup, on se retrouve avec des jeans à 1, 2 euros, des vestes, des t-shirts, il y a du neuf, du pas neuf. Et je crois que je me suis presque 100% habillée à Emmaüs depuis, donc toujours 2018. Il y a des fois, là, une fois cette année, je me suis acheté un vêtement neuf. Mais pour dire qu'il y a aussi un équilibre à trouver, c'est pas que, si ça vous parle pas, par exemple, il y a très peu de marques. Et comme je dis ça fait partie de l'identité des gens parfois, les marques. Donc c'est un processus, c'est un récit à créer pour qu'on s'habille différemment.
Eh bien, merci beaucoup. Au revoir.
Merci.